Je vous prie de vous rasseoir tout en demeurant dans cette attitude de recueillement. Seigneur, une fois de plus, nous voulons te dire combien nous tenons absolument à toi. Tu es tout pour nous. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En effet, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, possédons, tout cela, Seigneur, est le produit de ta grâce envers chacun de nous. Et ce matin, nous t'exprimons notre reconnaissance. Merci pour ces moments de louange et d'adoration, ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de nous approcher avec assurance, avec foi, du trône sur lequel tu es assis. Seigneur, mais ces moments nous ont également permis, ô Dieu, de déposer à tes pieds nos fardeaux, toutes ces choses qui nous accablent, Seigneur. Merci pour tout. À chaque fois que nous nous tournons vers toi, ô Dieu, en ayant une confiance totale et entière dans la personne du Christ et dans l'œuvre accomplie à la croix, à Golgotha, eh bien, chaque fois, tu nous accueilles les bras grandement ouverts. Merci, Seigneur, de nous aimer autant, ô Dieu, et de tout faire, et de continuer à tout faire, Seigneur, pour que nous demeurions sur le chemin de la vérité, pour que nous continuions notre parcours avec toi, en étant portés par ta parole, et en ayant nos regards rivés sur toi, l'initiateur de la foi, mais aussi son accomplisseur. Merci pour tout. Prépare-nous, Seigneur, maintenant à recevoir ta parole, et en même temps, aide ton serviteur à proclamer cette parole avec force, avec puissance. Merci pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, nous allons continuer avec notre thème, à savoir l'Église et Jésus-Christ, est-ce le Bethel du Dieu vivant, la maison de Dieu, avec tout ce que cela implique, ou alors l'Église du Christ, l'assemblée que nous fréquentons, à laquelle nous appartenons, le lieu où nous allons tous les dimanches pour rencontrer Dieu, ce lieu-là, est-ce vraiment un lieu qui est véritablement consacré à Dieu, où Dieu continue d'agir, ou alors, avec le temps et par toutes sortes de facteurs, eh bien, mis ensemble, ce lieu a fini par perdre son caractère sacré et par devenir un véritable Bethaven, un lieu où règne le mensonge, un lieu de perdition, un lieu où le mal s'exprime sous toute sa forme, un lieu de manipulation, un lieu où tous les excès sont possibles. Voilà donc la question, et aujourd'hui c'est le septième épisode, et pour ce septième épisode nous allons revenir une fois de plus à l'apôtre Paul, là à Milet, lorsqu'il envoie chercher les anciens d'Éphèse. Nous sommes donc dans Actes chapitre 20. Nous allons lire très rapidement à partir du verset 17 pour nous situer un peu le contexte et pour mieux apprécier le message qu'il a donné, qu'il a délivré aux responsables de cette église. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous ou de vos rangs se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses ou tordues pour entraîner les disciples après eux et non pas après le Christ. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir avec larmes chacun de vous. Maintenant je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Et gloire au Seigneur. Nous sommes donc avec Paul et les anciens d'Éphèse. Et une fois de plus, nous allons aller à la rencontre de cette sévère mise en garde prophétique que l'apôtre Paul a faite aux responsables de l'église d'Éphèse. Et nous allons voir comment cette mise en garde, cet appel à la vigilance, mes amis, comment elle est encore d'actualité aujourd'hui, puisque nous l'avons souligné et Salomon est là pour nous le rappeler, rien de neuf sous le soleil. Et surtout dans ces temps de la fin où l'ennemi s'acharne, où l'ennemi essaye par tous les moyens, mes amis, de distraire, surtout les responsables, ces hommes que le Seigneur a établis comme pasteurs, comme responsables, ces hommes qu'il a fait lever du milieu de son peuple, du milieu de son troupeau, pour les établir bergers, pour les établir pasteurs, eh bien ces responsables-là devaient être extrêmement vigilants, devaient savoir qu'ils avaient une grande responsabilité, celle de veiller sur le troupeau du Seigneur, celle de veiller sur l'Église, l'Église de Dieu. Et l'apôtre souligne l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. C'était un appel à l'ordre, c'était un rappel important que tous ceux que le Saint-Esprit avait établis comme évêques, comme épiscopes, comme surveillants, que tout cela devait savoir qu'ils travaillaient dans le cadre d'une structure qui appartenait à Dieu et à Dieu seul. Il était donc important qu'ils se souviennent, qu'ils se rappellent à chaque fois qu'ils avaient affaire d'abord avec celui à qui appartient l'Église, celui qui l'a bâti par le Saint-Esprit et au moyen de sa parole. Alléluia. Une sévère mise en garde prophétique qui vaut son pesant d'or. Une sévère mise en garde, mes amis, qui nous concerne tous. Tous, alors. Non seulement, comme nous l'avons souligné à plus d'une fois, nous les responsables, le Seigneur nous a fait lever du milieu de son peuple. Il nous a revêtus du tablier du service pour que nous soyons au service de sa parole et de son Église. Eh bien, cette mise en garde concerne également les fidèles que vous êtes. Vous devez veiller sur votre assemblée, afin qu'elle continue à être toujours et encore toujours le lieu qui accueille régulièrement la présence de Dieu. Le lieu qui reste et demeure consacré à Dieu. Un lieu, mes amis, où les uns et les autres viennent et rencontrent Dieu. Ils viennent avec des problèmes, ils repartent avec des solutions. Ils viennent avec des maladies, ils partent, ils repartent avec la guérison. Eh bien, pour que l'Église conserve ce caractère de Bethel, c'est-à-dire ce caractère d'être la maison de Dieu, colonne et appui de la vérité, eh bien, il faut à la fois que les disciples, les fidèles et les responsables soient conscients que rien n'est joué à l'avance, que nous devons tout faire. Nous devons serrer la ceinture de la vérité, nous devons rester attachés à Christ, nous devons toujours avoir nos regards fixés sur lui, pour qu'en tout et pour tout, les assemblées que nous fréquentons, les lieux qui se présentent comme étant l'Église de Jésus-Christ, restent et demeurent des lieux qui accueillent régulièrement la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Les responsables devaient d'abord veiller sur eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Car avec le temps, eh bien, nous les responsables, nous sommes de plus en plus distraits. Nous finissons par nous attacher plus à l'appel qu'à celui qui nous a appelés. Nous finissons, mes amis, par prioriser le ministère. Et au détriment, et malheureusement, au détriment de celui qui nous a établis dans le ministère. Dieu doit rester, mes amis, la priorité pour nos vies, peu importe notre appel. Voyez-vous, le ministère passera, mais lui demeure éternellement. Et le ministère, ce n'est qu'une occasion, une opportunité qu'il nous donne, mes amis, pour pouvoir nous rendre utiles par rapport à sa maison. Le ministère n'est pas une sorte, ou ne doit pas être considéré comme étant une sorte d'Oscar, ou un diplôme, parce que nous avons excellé, parce que nous avons plus de zèle que les autres, alors le Seigneur aurait été séduit, charmé par ses ailes, et se serait dit, tout compte fait, je crois que ce petit-là, il est très zélé, il a beaucoup de passion pour moi, je vais l'établir dans le ministère. Pas du tout, mes amis. Or, aujourd'hui, nous confondons le zèle, la passion pour le Seigneur, avec l'appel véritable. Il y a des gens que Dieu appelait, qui passaient inaperçus dans les assemblées. Voyez-vous ? C'est à peine qu'on les entendait parler. C'est à peine qu'on les entendait prier. Ils étaient toujours là, complètement absorbés dans la masse. Et puis un jour, le Seigneur les a fait lever. Il n'y a rien que nous fassions qui puisse attirer Dieu, qui puisse séduire ou charmer Dieu au point de se dire, bon, tout compte fait, je vais le prendre lui pour en faire un pasteur. Ou alors, par, je ne sais, commisération ou par pitié, le Seigneur regarde et dit, oh là là, c'est un pauvre petit garçon, c'est un petit monsieur, ou il a échoué dans ses études, il a tout fait, il s'est lancé dans le commerce des cartes SIM, ça n'a pas marché, on l'a escroqué, maintenant il est là, il tourne en rond, j'ai pitié, tout compte fait, je vais l'appeler au ministère. Non! Dieu n'est pas mu par une simple pitié. Il peut appeler quelqu'un qui a des moyens. Alléluia. Eh oui, celui qui appelle. Tout comme il peut appeler quelqu'un qui n'a pas de moyens. Il reste souverain en tout. C'est pourquoi nous devons rester attachés à la parole. Veillez sur eux-mêmes. Oui, vous les anciens, vous les évêques. Et encore une fois, ce n'était pas un titre honorifique. Pas du tout, mes amis. Ce n'était pas un titre réservé à certains qui auraient été atteints par l'âge canonique. Non. C'était une fonction, une charge. C'était de surveillant. Voilà le sens étymologique de ce mot épiscope, ou épiscopos, ou épiscopoi. Donc vous voyez. Et puis ensuite, il devait veiller. Veiller sur les brebis du Seigneur. Non pas sur leur bétail ou sur leur gibier. Car avec le temps, mes amis, avec tous ces faux enseignements, avec toutes ces hérésies, et avec toutes sortes de choses, beaucoup de pasteurs ont transformé les fidèles, les brebis du Seigneur, en des gibiers, en du bétail qui leur appartient. Du bétail qu'ils peuvent traire à volonté. Voyez-vous ? Non. Nous-mêmes, nous sommes des brebis dans la bergerie du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors pourquoi cette sévère mise en garde ? Voilà la question que nous nous sommes posée la fois dernière. Pourquoi Paul, tout d'un coup, eh bien, leur fait cette mise en garde très sévère ? Eh bien, nous l'avons vu la fois dernière, c'était juste en introduction. La réponse est dans ce verbe. Car je sais qu'après mon départ, c'est le verset 29, je sais, littéralement, moi, je sais. Et certaines traductions, ou certaines versions l'ont traduit en insistant, en disant, je sais bien, moi, Paul, qu'après mon départ, quelque chose de terrible arrivera. Lisez les, comment? Lisez, mes amis, le message que le Seigneur adressera plus tard à l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, et vous allez voir. Voyez? Tout est parti de là. Je sais. Premièrement, qu'est-ce qu'il sait? Des loups redoutables. Ah! Des loups féroces. Des loups cruels et ravisseurs s'introduiront et n'épargneront pas le troupeau. S'ils doivent s'introduire, c'est que ce loup-là vient de l'extérieur. N'est-ce pas? Eh oui. Aujourd'hui, beaucoup de responsables d'église sont naïfs. Pour peu que quelqu'un a les galons de prophète, a le manteau d'apôtre, pour peu que quelqu'un, mes amis, est parfumé de toutes sortes de titres, bishop, trishop, tout ce que vous voulez, eh bien, certains responsables d'église se sentent dans l'obligation d'inviter le prophète ou le super prophète, l'apôtre ou le super apôtre, à venir encourager l'église. Et dans la plupart des cas, ils ont invité de loups déguisés, de loups ravisseurs. Et cette église va en connaître, cette église d'Éphèse. Des gens qui vont se lever, des gens qui vont venir. Alors, vous, Église, c'est votre responsabilité de veiller également sur nous. Si vous voyez que nous vous amenons des visiteurs qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu, des gens dont la vie morale est complètement à l'ouest, c'est votre devoir de dire, pasteur, non, nous connaissons cet homme, nous ne voulons plus le voir ici. Je ne dois pas laisser mes relations prendre le pas sur la vie de l'église. Car ce n'est pas mon église. Oui, je peux le faire dans ma maison. Mais ici, ce n'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu. Gloire à Dieu. C'est votre maison. Voyez-vous? Mais malheureusement, comme nous l'avons vu avec Diotrephe, beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont devenus de véritables despotes. Des dictateurs, des gens qui imposent, qui ont transformé l'Église en une propriété privée. Et c'est leur loi, c'est leur parole, ce sont leurs principes, c'est leur vision qui doit primer sur tout, et même sur la vision du Seigneur. Et vous retrouvez dans ces églises des âmes traumatisées, des âmes qui n'ont plus de volonté, qui ont été, il y a un mot en grec là, aboliques. C'est-à-dire quelqu'un, c'est pas boulimie, hein, aboulique, quelqu'un qui a perdu la volonté, qui n'a plus de volonté. Alors ces gens-là, à l'instar des moutons de Panurge, voyez-vous, suivent le berger comme ça. Mais quel berger? Un aventurier, un loup féroce, un loup cruel, qui est là pour détruire. Vous comprenez pourquoi dès le départ, on l'a d'ailleurs critiqué à tort par certains. Pourquoi le pasteur Vernon ne donnait pas la chair à n'importe qui? Aujourd'hui, beaucoup lui donnent raison. Voyez? Beaucoup avaient pensé qu'en invitant des gens qui viennent de partout, les bishops, tout ce que vous voulez, eh bien, ils contribueraient à faire avancer l'Église. C'était rare qu'ils donnent la parole. Et quand ils donnaient la parole, ils étaient sûrs de la personne à qui ils donnaient la parole. Résultat, nous sommes là. Résultat, cette église a fini par essaimer. Cette église a ouvert d'autres assemblées un peu partout à travers le monde. Et très bientôt, nous allons nous retrouver dans une convention. Parce qu'il y a eu au départ de la vigilance. Parce qu'au départ, il était convaincu que la chair est sacrée. On ne peut pas la laisser à n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un vous demande, pasteur, je peux venir chez vous faire un séminaire, que tout de suite, eh bien, vous lui ouvrez les bras parce que vous avez étudié à l'école biblique, parce que vous avez planté les choux ensemble, parce que vous avez mangé les arachides avec la chikwang,
Et par conséquent, vu cette proximité, eh bien, vous pouvez lui laisser la chair. Ce n'est pas ta chair. On laisse la chair à des gens qui ont reçu quelque chose. Des gens qui peuvent donner quelque chose. Et non pas qu'ils vont venir ici pour saupoudrer les gens, leur jeter la poudre aux yeux, mais quelle poudre? Une poudre toxique, mortifère, destructrice. Rappelons-nous de la mise en garde du Seigneur. Dans Matthieu 7, nous sommes dans le sermon sur la montagne. Il faut savoir que le sermon sur la montagne reste la charte du chrétien. La charte de tout enfant de Dieu reste le fondement, mes amis, de l'enseignement de Jésus. Et du reste, tout ce que nous trouvons en aval, c'est-à-dire dans les épîtres, eh bien tout cela n'est que l'élaboration, n'est que le développement, n'est que l'amplification de l'enseignement que le Seigneur a laissé à l'Église, enseignement que nous trouvons dans ces sermons connus sous le nom de sermons sur la montagne. Au chapitre, ça commence au chapitre de Matthieu, chapitre 5, avec les béatitudes ou les macarismes, et puis ça va continuer. Au chapitre 7, versets 15 à 20, c'est le Seigneur qui parle. Lisez, faites confiance aux propos du Seigneur qu'à mes propres propos. Faites confiance aux propos du Seigneur, à ce qui est sorti et qui sort encore de la bouche du Seigneur. Qu'est-ce qui sort de la bouche, je ne sais de quel archevêque? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Lui qui se présente comme étant la vérité, la vie. Chapitre 7, verset 15. Gardez-vous! Lui aussi commence par une mise en garde. En d'autres mots, soyez vigilants par rapport aux faux prophètes. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, littéralement déguisés en vêtements de brebis. Mais au-dedans, mais à l'intérieur, car c'est la vie intérieure qui fait l'homme, et non pas l'apparence, et non pas, mes amis, ce qu'on voit, voyez-vous, mais ce qu'il y a à l'intérieur, non pas les diplômes. Aujourd'hui, nous affichons nos titres académiques dans nos bureaux. Évidemment, l'américanisme est passé par là. Voyez, hein? Bon, chez eux, c'est la culture, hein? On met tout. Hein? On a fait une formation gauche à droite, c'est sanctionné par un diplôme, paf. Alors, vous entrez dans les bureaux de certains pasteurs aux États-Unis, eh bien, vous avez... Vous pouvez faire tout un voyage, hein, à propos de leur cursus. Donc... Gardez-vous de faux prophètes. Mise en garde. Soyez vigilants, car ils vont venir comme de brebis. Voyez-vous? Ou, comme je l'ai dit littéralement, déguisés en vêtements de brebis, mais au-dedans. Ah! Au-dedans, qui sont-ils? Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des prédateurs. Ce sont des mercenaires. Leur motivation, dans la plupart des cas, c'est l'argent. Et encore aujourd'hui, l'Église est devenue un moyen pour beaucoup de se hisser ou d'occuper une certaine position dans la société. Une sorte d'ascenseur social. Ça ne devrait pas être comme ça, mes amis. Voyez? Au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Et en même temps, ils nous montrent comment nous devons le reconnaître. Ô Église de la Borne, ou vous qui m'entendez via les différents médias, suivez l'enseignement du Seigneur. Il dit, vous reconnaîtrez ces faux prophètes. Vous reconnaîtrez ce loup déguisé en brebis. Comment? À leurs fruits. Ah. Et le Seigneur continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Et ou des figues sur des chardons? Non, ce ne sont pas ni les épines ni les chardons qui vous donneront le raisin ou les figues dont vous avez besoin, pas du tout. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Le problème, c'est quoi? C'est que l'arbre produit le fruit selon son espèce. Vous pouvez venir peindre un arbre, changer sa couleur, voyez-vous, mais ce qui fait l'arbre, ce ne sont pas les fruits. Les fruits que vous voyez sont la manifestation de la nature de l'arbre. Le citronnier n'est pas citronnier parce qu'il produit des citrons. Il est citronnier dans sa nature et par conséquent il produit des... Gloire à Dieu. Alors nous parlons des citronniers. Voyez, parce qu'on peut recourir à des greffes aujourd'hui, vous savez ça, hein? Voilà. Vous prenez la plante d'un oranger, vous allez greffer ça sur une autre plante. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits, le Seigneur insiste, c'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Alléluia. À leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Quand nous parlons de fruits, nous sommes dans le domaine de la moralité. Nous sommes dans le domaine de la vie personnelle. Et quand nous parlons de la vie personnelle, nous parlons non seulement des actes que nous voyons, mais également des motivations derrière. On peut voir la cupidité se manifester. On n'a pas besoin d'une intelligence, du ciel pour comprendre qu'il y a là la cupidité qui pousse telle ou telle autre personne à courir après l'argent. Parler de fruits, c'est parler, mes amis, de la vie intérieure, de ce que l'homme est véritablement. Car chaque arbre, chaque semence, produit du fruit selon son espèce. Mais là aujourd'hui, vous les fidèles et brebis du Seigneur, vous êtes de plus en plus intéressés, de plus en plus impressionnés par les titres, par l'apparence, par l'allure extérieure, mes amis. Et c'est ainsi qu'on assiste aujourd'hui à un christianisme bling-bling, à un christianisme frou-frou. Parce que nous regardons à l'extérieur, les paillettes, les strass et tout ça. Et voilà, nous allons accueillir le prophète. Alors on attend le prophète est dans une loge derrière. Voilà. On attend le prophète. Voilà. Et quand on dit maintenant, nous allons accueillir le prophète, il nous vient du Canada, le prophète, mettons-nous debout, Mutumbi Mbeka, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a envoyé, nous allons crier. Alors lui attend, il est derrière la loge. Il vérifie d'abord si tout est impeccable. Ok. Et quand il arrive, c'est pas un ring. Ce n'est pas un endroit pour parader. Non, mes amis, c'est un endroit sacré. Si on a une prophétie, qu'elle vienne de Dieu, et puis on la donne avec humilité, on ne cherche pas à se mettre en évidence. Dieu m'a dit, j'étais à la montagne, juste au moment où je vais partir, j'entends le bruit d'un arbre, et puis je me retourne, je dis, mais cet arbre, il n'y a pas de vent, cet arbre bouge, et puis l'arbre bouge, et puis j'entends la voix qui me dit, mon fils, et puis je me retourne, et dis, c'est moi, ah Seigneur, vous racontez ça tout, pourquoi? Inspirez-vous des prophètes, même de l'Ancien Testament? Au moins, Ézéchiel donne beaucoup de détails. Mais d'autres, il est simplement dit, « Et la parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe. » Alléluia. On ne nous dit pas comment. Et puis, ce n'est pas notre problème. Était-ce à un moment où Ésaïe était dans un moment de louange et d'adoration? Était-ce à un moment où il marchait dans un contexte particulier, etc.? Voyez-vous, faisons attention. Ne nous laissons pas impressionner. Arrêtons avec les titres. Voyez, au point où aujourd'hui, les ministères, les différents ministères ne veulent plus rien dire. Les gens s'accrochent à des titres. Ils veulent être reconnus comme prophètes. Moi, je vois, comme vous, voilà, que des prophètes à gauche, à droite. Oui. Et ce sont des prophètes, ce n'est que lorsqu'un événement arrive, dit oui, Dieu nous avait prévenus. Vous avez entendu ça?
Oui.
Oui. Personne n'avait prophétisé sur l'arrivée du Covid. Hein? Ah, ils étaient où? Aux abonnés absents. Donc là, la voix prophétique s'éteint. Alors s'il y a un moment où on avait tant besoin d'entendre la voix de Dieu, dans ce contexte-là, non? Où le Seigneur nous aurait dit, préparez-vous, à un moment il n'y aura plus de réunions en présentiel. Oui ou non? Alors, vous qui n'avez pas de moyens pour pouvoir suivre des cultes sur les différents médias, priez pour que je vous donne les moyens.
Il nous aurait parlé? Non, il n'a pas parlé.
Et puis il nous aurait dit, ce n'est pas pour un mois. Ce n'est pas comme une simple petite épidémie. Vous êtes partis pour quelques années.
Dieu nous aurait parlé. Peut-être qu'il a parlé, nous étions distraits. Mais parmi tous ces prophètes qui sévissent,
qui ont ouvert des cabinets à gauche, à droite, voyez, comme quelqu'un m'a dit, on a fait venir un prophète de l'intérieur, et tout ça, on invite les gens, venez, il va donner des prophéties. Vous pensez que ça se passe comme ça? Ça devient du show, ça, hein? Oui ou non? Ça devient comme ça, Saint-Esprit vient. Voilà, il y a le pasteur Bokeh qui est là. Voilà. Tel est là. On regarde lui, ou bien on signale au pasteur, au prophète. Tiens, il y a le ministre provincial. Ah, ok. Et on ferme les yeux, voilà. On trouve une prophétie. Tout ça, c'est mécanique. Tout ça, c'est charnel. Ouais. Donc, nous devons veiller. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Regardez leur vie morale. Ils se marient, ils divorcent. Ils se remarient, ils redivorcent. Voilà. 20 ans après, ils sont déjà à leur 4e épouse. À chaque fois, Dieu m'a dit. Enfin, finalement, on se demande qui est ce Dieu-là. Si c'est lui qui t'avait donné cette femme, donc il s'était trompé parce qu'après, tu coupes avec. Oh non, elle est sorcière. Si elle est sorcière, mais toi, tu as le pouvoir seulement de délivrer les autres sorciers. Pourquoi tu ne la délivres pas? Et si tu n'as pas assez de pouvoir, pourquoi tu ne dis pas, chérie, allons trouver un pasteur et que ce pasteur-là prie pour toi afin que tu sois débarrassé de la sorcellerie? Pourquoi seulement lui tourner le dos et lui dire, non, c'est fini. Dieu m'a dit que tu es sorcière, tu dois partir au village ou tu dois rentrer dans ta famille. Eh bien, ça veut dire que cet homme-là sert un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Puisque le Dieu de la Bible est capable de tout. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes. Pourquoi? Parce que lui seul a réponse à tout. Lui seul a solution à tout. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on invente, on recourt à ce genre de subterfuges, voyez-vous, inspiré du diable pour se débarrasser de la femme de sa jeunesse, ça veut dire qu'on est manipulé. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a la cupidité à l'intérieur. Tout cela parce qu'on a déjà repéré une choriste. Non, les nôtres sont sages, hein? Où on a déjà vu la femme du diacre. Des fois, on lit des histoires. Vous avez l'impression que cela se passe sur Mars, sur une autre planète. Mais quand vous réfléchissez, vous dites, mais sur Mars, l'homme ne vit pas sur Mars. Donc, nous sommes encore sur Terre. Vous voyez? Et puis, en se tournant vers le Seigneur, là, il vous dit par sa parole, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans des temps difficiles. Deuxièmement, il y a d'abord des loups qui viennent de l'extérieur, qu'on invite, des amis. On a entendu que tel, lui, quand il se met à prêcher, tout le voisinage tremble. Ok, alors on le fait venir, on ne connaît pas quel est son parcours, qui il est, quelle sorte de fruit porte-t-il? On regarde simplement au ministère. Deuxièmement, la raison de la sévère mise en garde prophétique de Paul, d'abord, les gens viendront de l'extérieur pour s'introduire, chacun va avoir un habillement particulier pour charmer les gens. C'est comme ça qu'on a eu des gens qui sont venus ici et qui sont repartis avec des âmes. Voyez, il y a des pasteurs, des responsables d'église qui se sont spécialisés dans la pêche qui consiste à aller dans les aquariums des voisins. Vous savez, vous allez chez quelqu'un, les petits poissons qui sont dans l'aquarium, vous n'avez pas besoin d'expérience. Vous n'avez pas besoin d'une canne à pêche. Vous n'avez besoin de rien. Vous mettez simplement votre main. Selon la grandeur de votre main, vous en prenez deux ou trois. Mais ne vous réjouissez pas, parce que ces poissons n'ont pas atterri dans cet aquarium par hasard. Il y a des choses qui ont été faites en amont. Voyez. Et maintenant, deuxième raison. Je sais que de votre rang, de vos rangs, que parmi vous, du milieu de vous, verset 30, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que du milieu de vous, de vos rangs, comme nous sommes là, comme nous sommes dans les différents départements, ici à l'église, du milieu de vous, s'élèveront des hommes, évidemment, il faut prendre ça dans le sens générique du terme, mais il y a aussi des femmes. Hein. Nous regarderons, hein. Il n'y a pas qu'il y a des femmes super prophétesses qui font des dégâts incroyables. Vous voyez, partout elles passent, Maman Mouziki, je ne sais pas comment on les appelle, Mouziki à esprit. Allez savoir qu'est-ce que ça veut dire, Mouziki à esprit. Mouziki, c'est quoi encore? C'est le groupe des mamans à l'époque, hein, qui se retrouvent, ils font des ristournes, tout ce que vous voulez, mais enfin... Je ne sais pas si l'œuvre de Dieu consiste en un musiki. Donc, s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses ou tordues. Et ces paroles auront pour effet, hélas, ces paroles auront comme conséquence, mes amis, sur les disciples, eh bien, c'est que ces paroles détacheront ses disciples, les disciples du Christ, les détachés du Christ, et puis se mettront à suivre ces gens-là. Voilà. Si quelqu'un vous dit « venez à moi », alors il n'est pas avec Dieu. Moi je vous dirai jamais « venez à moi », hein, que Dieu m'en garde d'une telle folie, d'une telle démence. Vous voyez ? C'est lui. C'est Jésus qui a dit, venez, nous proposons des solutions. Nous disons aux gens, même lorsque nous prions pour les gens, c'est pour les amener à voir le regard tourné et fixé sur le Seigneur. Donc, de vos propres rangs surgiront des hommes qui prononceront des paroles tordues, des paroles séductrices, des paroles, eh bien, toxiques, entraînant les disciples après eux. Vous voyez la précision? Ces gens viennent, ils prêchent, ils font des séminaires, ils donnent des prophéties. Mais c'est dans le but d'attirer l'attention des fidèles sur eux. Quel que soit notre charisme, nous n'avons d'autre droit, mes amis, que d'amener les gens à suivre Jésus. Alors méfiez-vous, vous qui voulez commencer des extensions à gauche à droite, des églises à gauche à droite, vous commencez par fréquenter une église comme une petite brebis. Alors qu'à l'intérieur, vous êtes un vrai loup. Voilà. Et puis après, on commence à donner des petites prophéties. Ce sont des gens qui ont une intelligence démoniaque. Ils peuvent voir que non, cette sœur-là est un peu simple d'esprit. Elle y rigole tout à l'heure. Ok. On l'approche. Ah, bonjour sœur. Ah, ça va? Au début, c'est comme ça. Ça va? Ah, gloire à Dieu. Amen. Mais vous dites amen à quoi? Voilà, amen. Ok. Et puis, monsieur, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu le dimanche. J'ai prié, et puis,
À un moment, votre visage est passé devant moi. Et quand je suis arrivé à l'église, je ne vous ai pas vu, dit Seigneur, est-ce qu'elle est malade ou quoi là? Ah, sœur, vous étiez où? Mais c'est votre responsabilité. Pourquoi vous devez savoir? Vous n'êtes pas le pasteur de cette sœur. Pourquoi vous devez savoir où la sœur a été? Ce qu'elle a fait. Voilà. Ah, ok, gloire à Dieu. Non, non, j'ai prié pour vous. D'ailleurs, voilà, on commence à tenir des propos. Tout ça dans le but d'attirer les gens vers soi. Et puis après, on part avec deux conteneurs, deux remorques. Avec quelques personnes dans la remorque, qu'on traîne. Alors, disons, j'ai commencé une cellule. Voilà. Même l'église, le pasteur de l'église n'est pas au courant. Voilà. On commence une cellule avec quelques personnes remorquées. Et pour les maintenir, c'est là qu'ils font preuve de cette intelligence démoniaco-diabolo-satanique. Les manipuler par des prophéties. Et souvent, ils suivent de près toutes les conversations. J'en sais quelque chose. Pendant que vous partagez, même au téléphone, hein, ils ont toujours des oreilles. Évidemment, des oreilles comme le nôtre, mais sur le plan spirituel, c'est des oreilles comme celles de lapin. C'est des antennes. Hein. Voilà. Il a déjà suivi que... Ah, vous l'avez amené où? Mais il faut prier. Hein? À l'hôpital de Kitambo. Ah, ok, je verrai. Et puis c'est fini. Ils font semblant, ils n'ont pas suivi. Donc, ni entendu rien du tout. Ok, baba, on prie. 3 jours après, pendant que j'ai prié, j'ai vu que tu tenais un enfant dans les bras, tu l'amenais à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un problème dans la famille? Et vous, toute naïve. Oui. Mais c'est l'enfant de mon grand frère. Mon grand frère est parti en Europe, les enfants sont encore ici. C'est lui, oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En quoi Dieu se glorifie? Ah oui, non, nous devons prier. Et puis en même temps, le Seigneur m'a dit, l'offrande là de quoi encore on appelle? L'offrande des prophètes. Il faut amener ça, parce que la situation est gravissime. Oui. Pendant que vous le portiez dans vos bras, j'ai vu comme une main qui est venue de nulle part, qui a tenu sa jambe pour la tirer de l'autre côté. Et puis j'ai commencé à intercéder. Il faut vraiment finaliser ça par une offrande de prophète. Et vous, par amour pour votre neveu, votre frère vous a laissé en attendant qu'il trouve le papier au Canada, aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Ah, mon abat. Oh, Seigneur. Voilà. Le peu que vous aviez, vous devez payer les études des enfants à la borne. Ah. Ouais. Vous donnez ça. Et après, les responsables de l'école, ils disent non, il y a une échéance. On vous convoque et dit, maman, vous n'avez toujours pas payé. Oh, maman, là, et tout ça. Et puis vous venez au bureau. D'abord, vous dites que non, c'est pour problème spirituel, pour qu'on vous fasse passer très vite. Vous arrivez là-bas, pasteur et tout ça. J'ai des problèmes pour payer. Vous voyez? Et quand le pasteur, ayant le discernement, comprend ça, il dit, ah, le pasteur Laborne, il n'est pas sensible aux besoins des gens. Hein. Attention, les temps sont mauvais. Votre âme est chère. Vous valez plus que tout l'or, tous les diamants de l'univers. Ces gens attirent les fidèles, non pas pour les conduire à Christ, mais ils les attirent vers qui? Après eux, nous avons lu. Mes amis, Paul savait, je vais terminer par là, que dès l'instant où le Seigneur, le maître de l'Église, le propriétaire suprême de l'Église, à partir du moment où le Seigneur s'est levé et a commencé à bâtir son Église comme il a dit, je bâtirai mon Église, eh bien, et rien ne prévaudra contre elle, à partir de ce moment-là, sachez que Satan
s'est levé lui aussi et il a fait lever son armée pour pouvoir contrecarrer le plan de Dieu, pour pouvoir contrecarrer le projet de Dieu d'attirer beaucoup d'âmes dans son royaume. Il s'est levé, il a mobilisé son armée et depuis il lance des missiles sol-air, air-sol, mes amis, pour détruire l'église du Christ. Mais rassurons-nous, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Rien, absolument rien, ne prévaudra contre elle. Je vous l'avais expliqué, je reviendrai sur ce passage. Rien, aucune force ne pourra détruire l'église de Jésus. Ça fait 2000 ans que cette église avance. Le diable a tout fait, mes amis. Mais rien ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Oh, alléluia! Aussitôt que l'église a commencé, Satan lançait contre elle la persécution. Et la persécution a toujours été l'arme du diable qu'il a toujours utilisée pour essayer d'arrêter l'œuvre du Seigneur. Lisez le livre des Actes. Vous allez voir comment le diable s'est acharné contre l'église du Christ. Vous verrez comment les premiers disciples de Jésus ont été persécutés. Certains y ont laissé la vie. Lisez le livre des Actes. Intéressez-vous à l'histoire de l'église et vous verrez combien il y a eu de martyrs à travers les âges. Vous voyez? La persécution commence à Jérusalem, là où l'église a débuté. Et puis elle s'est poursuivie au-delà de Jérusalem, au-delà des frontières d'Israël. Et encore aujourd'hui, les chrétiens, les vrais chrétiens sont persécutés. Les chrétiens qui vivent, les disciples du Christ qui vivent dans des régimes totalitaires, dans des régimes obscurantistes, liberticides, eh bien, sont de plus en plus persécutés. Ceux qui vivent dans des pays où les autorités, aussi bien religieuses que politiques, reposent ou s'appuient sur la fausse religion, eh bien, persécutent les chrétiens. Il y a des coins dans ce monde qui sont des véritables antichambres de l'ennemi. Là où, dans ces mondes, dans ce pays-là, dans ces régions-là, quand quelqu'un se lève pour dire, confesser, qu'il devient chrétien, qu'il croit en Jésus-Christ, etc., eh bien, là, eh bien, le frère se lève pour mourir. Intéressez-vous, mes amis. Moi, je reçois régulièrement la petite revue L'Église persécutée, qui nous donne un peu des informations sur la persécution à travers le monde. Je vous assure, c'est terrible. Parce que pour le diable, la persécution a toujours été une de ses méthodes pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose, il n'y arrivera jamais. Oui, Satan, dans ces temps de la fin, a lâché contre l'Église ses hyènes spirituelles, ses loups ravisseurs, ces prédateurs des ténèbres, ces esprits séducteurs, il les a lancés sur toutes les routes du monde afin de bloquer, d'empêcher l'œuvre de Dieu, d'arrêter le travail de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est peine perdue pour le diable et pour ses sbires. C'est peine perdue pour les caciques des ténèbres. C'est peine perdue. Car notre Dieu déclare ceci, dans Ésaïe 43, 13, « J'agirai, qui s'y opposera ?» J'agirai, ça c'est Dieu qui parle. Il n'y a que lui qui peut parler ainsi. Aucun régime politique, aucun système philosophique, aucune puissance militaire, financière ou autre, ne peut, mes amis, se mettre en travers de la route par laquelle le Seigneur va passer dans cette œuvre de salut, dans ce temps de la fin. Il est le seul qui a dit, je reviendrai sur cette déclaration avec toute une prédication, j'agirai, c'est affirmatif. Il ne dit pas, je pense que, je présume que, il est fort possible que, non, ce n'est pas de la probabilité, c'est une certitude, c'est absolu, c'est déclaratif. J'agirai. Qui s'y opposera? Connaissez-vous quelqu'un qui puisse s'y opposer? Ça sera pour sa mort. Alors, puisqu'il en est ainsi, eh bien, nous devons avancer tout en faisant attention que certains de nos rangs ne puissent pas s'élever en disant « Je deviens du jour au lendemain prophète, visionnaire, attention. » Alors, d'où cette exhortation de la parole de Dieu, « Veillez les uns sur les autres. » N'apportez pas toujours les problèmes au pasteur. Si vous voyez dans votre entourage une sœur qui depuis quelque temps elle n'est plus la même. À chaque fois qu'elle parle, Dieu m'a dit. Ça commence toujours comme ça. J'ai rêvé. Comme si certains auraient le monopole du rêve. Tout le monde rêve. Vous savez ça? Mais oui, tout le monde rêve. Oui, j'ai rêvé, j'ai vu, j'ai entendu une voix. Hein? C'était comme un vent. Vous voyez tout le temps, eh bien, ne venez pas seulement tout de suite trouver le pasteur, s'il vous plaît. Si vous l'aimez, à moins que vous ne sachiez pas comment l'aider. Mais vous pouvez l'aider, vous pouvez l'appeler. Peut-être que la sœur est en plein délire. Oui, elle est dépassée par les événements. Alors elle essaie de se réfugier dans la prière. Au lieu d'avoir une alimentation normale, alors elle pense qu'avec le jeûne, avec la prière, les choses vont changer comme de manière automatique. Prière, 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 à un moment, elle est disjoncte, hein. Elle se retrouve complètement à l'ouest de l'ouest. Elle commence à voir Dieu partout. Ah non, Dieu me dit que non, les cheveux là, non. Il y a une coupe chrétienne. Ah bon? Vous êtes surpris? Ah ouais. Non, Dieu me dit, cet accoutrement n'est pas décent. Elle commence à voir les défauts partout. Voilà. Voilà. Le pasteur n'est pas bien rasé. En quoi ça vous regarde? Ah oui. Si je laisse la barbe qu'elle descende jusqu'au nombril, à moins que cette barbe-là vous effraie. Mais le cas échéant, la rendez grâce à Dieu. En disant, il a encore la barbe, le pasteur. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette parole. Nous réalisons une fois de plus, Seigneur, notre responsabilité de demeurer vigilants, notre responsabilité, oh Dieu, de veiller les uns sur les autres, mais également de veiller sur nous-mêmes, surtout dans ce temps où l'esprit d'égarement est à l'œuvre, dans ce temps de séduction, eh bien, garde-nous, afin que nous fassions tout pour que notre Église ne soit pas dénaturée, elle ne soit pas pervertie par des faux enseignements, par des hérésies de tous bords, mais qu'elle reste en tout et pour tout attachée à toi, Seigneur, en marchant par ta parole et sous l'inspiration de ton Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci de bénir également, Seigneur, ces offrandes, que tout cela puisse contribuer à ta gloire, mais aussi à l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci.